Good Morning Business, le grand débrief.
Et donc nous sommes de retour en direct de l'Hippodrome de Longchamp et de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Toute la journée d'ailleurs sur BFM Business, vous retrouverez évidemment, bien évidemment, à midi, sur Midi Business avec Sandra Gondouin. Nous sommes à l'heure du grand débrief, Laure Closier.
Absolument, et on va parler d'énergie, d'assurance chômage avec nos invités. Jean-Charles Samelian, bonjour. Vous êtes le président et cofondateur d'Alan. Caroline Semin, vous êtes la directrice du groupe Semin. On dit Semin ou Semine?
Semin.
Semin, c'était parfait. Vous faites du plâtre et de l'enduit. Et Axel Rebaudière, vous êtes directeur général de KPMG. Deux sujets à la REF aujourd'hui, l'assurance chômage et l'énergie. On va commencer par l'énergie avec vous, Caroline, parce que c'est vous qui avez l'activité industrielle. Vous n'êtes pas impactée directement parce que vous n'avez pas une industrie, vous, directement très énergivore. Mmh. Mais c'est une inquiétude que vous partagez notamment avec vos fournisseurs.
Tout à fait. Bon, on est fabricant de matériaux de construction. Notre cœur de métier, c'est les enduits. Donc, d'un point de vue process industriel, c'est des mélanges et du conditionnement. Donc, on est peu, en effet, consommateurs d'énergie. Par contre, nos fournisseurs de matières premières, entre autres plâtre et carbonate de calcium, qui sont les deux matières principales, eux, sont beaucoup plus concernés par le sujet. Donc, on est indirectement concernés et impactés. Et c'est vrai que là, la rentrée avec le contexte énergétique qu'on vit, c'est un gros flou pour les mois à venir et début 2023.
Oui. Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'on parle beaucoup en ce moment, effectivement, de la responsabilité collective, chacun doit prendre sa part du fardeau, ça veut dire est-ce que vous avez accepté des hausses de prix de la part de vos fournisseurs, ou est-ce que vous êtes obligé de leur dire, comme la grande distribution le fait avec les industriels de l'agroalimentaire, est-ce que vous êtes obligé de leur dire, moi je ne peux pas prendre toutes les hausses de prix parce qu'après je ne peux pas les répercuter sur mes prix de vente?
Alors, on a subi en effet beaucoup de hausses de matières premières depuis maintenant plusieurs mois. C'est des hausses qu'on a aussi beaucoup subies. Si on veut avoir la matière, on prend la hausse. Et puis, le principal, c'est avoir la matière première pour fabriquer et puis assurer la disponibilité produit à nos clients. C'est des hausses qu'on a essayé de répercuter proportionnellement sur le marché, mais que l'on a réussi à répercuter que partiellement. C'est pas évident.
Est-ce que ça vous met en danger du coup? Est-ce que si ça continuait, si les prix de l'énergie continuaient à s'envoler comme on le voit actuellement, est-ce que parfois vous avez des réunions, notamment c'est votre père qui est à la tête de l'entreprise aussi, on parlera de succession tout à l'heure, est-ce que vous vous réunissez pour vous dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va passer le cap?
C'est sûr que si l'énergie continue d'augmenter, derrière il y a forcément un impact sur les pénuries de matières, sur l'inflation qui va poursuivre et sur le marché de la construction neuve et sur le marché de la rénovation. Et derrière, ça impactera directement les emplois sur le secteur du bâtiment, qui est un pôle prépondérant de l'emploi en France.
Axel Rebaudière, vous voyez ces entreprises comme nous, à la fois inquiètes des trois mois à venir, commençant à faire des plans, sortant d'une année qui a parfois été bonne, cherchant un peu un curseur. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Effectivement, on voit que depuis le mois de juin, les choses commencent à se tendre pour un certain nombre d'entreprises ou de secteurs industriels. Donc, il y a une inquiétude qui est liée effectivement à ce coût de l'énergie, qui est aussi liée pour un certain nombre d'entreprises aux difficultés de recrutement. Donc tout ça mêlé fait que le contexte de cette rentrée est assez difficile pour les entreprises.
Est-ce que vous leur dites, mettez-vous tous aux abris, faites des économies, baissez les coûts, parce qu'il faut tenir. On a vu que le président de Huawei a écrit un mémo interne dans lequel il dit à ses salariés, 2023-2024, ça va être l'horreur. On ne sait pas si on va survivre. Donc tous aux abris et on espère qu'on sera encore vivant en 2025.
Alors effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui commencent à réduire la voilure, parce que effectivement, ça peut être le cas aussi d'un certain nombre de start-up qui ont levé des fonds et qui effectivement face à des difficultés potentiel de nouvelles levées vont essayer de réduire un petit peu le cash burn, la masse de coûts qui tournent chaque
mois. C'est pas le cas d'Alan, on va le voir.
C'est pas le cas d'Alan, on les connaît bien et on sait qu'il
y a du cash.
Il y a de l'argent. Mais effectivement, c'est une vraie difficulté. En même temps, je pense qu'il faut reconnaître que c'est dans ces périodes difficiles que les positions se prennent.
Ouais.
Et je crois que je lisais une citation d'Ayrton Senna qui disait c'est difficile de doubler quand il fait beau, mais quand il pleut, ben on peut rattraper les positions perdues sur la ligne de départ. Donc je pense que pour un certain nombre d'entreprises, cette situation ou ce contexte peut être aussi une opportunité de prendre de nouvelles positions, de nouvelles parts de marché, et puis d'être un peu plus audacieux.
Jean-Charles Samuelian, vous qui êtes à la tête d'Alan, vous aviez des perspectives de recrutement très importantes au début de l'année. Vous n'avez pas changé d'un chouïa votre stratégie ?
Dans notre cas, quand on a annoncé notre dernière levée de fonds, c'était pour aller à la profitabilité. C'était déjà un plan de croissance très forte, mais qui allait vers la profitabilité. On n'aurait plus besoin de lever des fonds encore. Et donc, on a confirmé ce plan. Donc, c'est de la croissance efficace et saine qui nous amène à la profitabilité. Je pense que les entreprises tech aujourd'hui, les startups à forte croissance, etc., se posent toute cette question-là, parce que l'environnement du financement est pas très sain. Et donc, il y a celles qui ont réussi à lever dans des bonnes conditions à la fin de l'année dernière, au début de cette année, qui, elles, se mettent dans un plan pour ne plus avoir jamais besoin de lever. Et il y en a qui sont capables de le faire, d'autres qui seront pas capables, et ça va faire du tri. Et je pense, en effet, ça va faire émerger des grands gagnants ou trier le marché. Et celles qui ont plus de problématiques de cash, elles vont devoir prendre sûrement des décisions difficiles. Ce qu'on voit, nous, avec...
Vous dites un mal pour un bien, un petit peu, quand même. Hein,
je pense que c'est toujours sain dans un écosystème. C'est la notion d'antifragile de Nassim Taleb. C'est dur pour les boîtes qui vont fermer, mais en fait, ça va générer des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux talents qui vont sur le marché, et il y en a plein qui vont continuer à grandir très fortement.
Donc, c'est le darwinisme économique. Hein.
Je pense qu'il est ça, hein, qui crée un système plus résilient, si le choc n'est pas trop fort. Et du coup, il faut juste que le choc soit mesuré.
Alors, vous êtes un néo-assureur, on vous connaît bien. Je ne sais pas si vous êtes convoqué, si vous êtes encore sous les radars, ou si vous serez aussi convoqué avec les banquiers et les assurances dans le bureau de Bruno Le Maire à la fin du mois, de septembre, pour vous demander de modérer les hausses de tarifs, parce qu'il y a une tentative d'augmenter les tarifs, parce que d'abord beaucoup plus de sinistres, le climat, le réchauffement, les incendies, quand il y a un dommage, les réparations coûtent plus cher parce que les matières premières ont augmenté. Qu'est-ce qu'on fait?
Je pense que ce qui est vraiment important dans notre industrie, c'est la transparence et la relation de confiance qu'on crée avec les clients, nous, ce qu'on appelle nos membres, et du coup, si hausse de tarif il y a, il faut qu'elle soit claire, expliquée et vivable sur le long terme. C'est pas pour faire plus de marge. Ça peut pas être c'est juste pour la viabilité du modèle, et c'est un partenariat long terme sur le partage de risque, l'assurance. Et ça, je pense, c'est le message qui doit être passé. Je pense être dogmatique sur pas d'augmentation de tarifs, c'est mettre peut-être une entreprise d'assurance en faillite dans 2 ans, et ça a pas trop de sens. Donc je pense qu'il faut juste le faire de manière intelligente et très transparente. Ce qu'on voit, en effet, nous on couvre un peu plus de 17 000 entreprises avec Alan, c'est qu'il y a beaucoup de questions chez les entreprises, à la fois les plans de recrutement en effet se contracte un peu par rapport à ce qu'on voyait dans le passé, mais en revanche les besoins d'attirer et de retenir les meilleurs talents sont plus importants que jamais. Et c'est là où bien investir sur l'assurance santé, nous c'est ça, mais en fait Alan on s'est positionné sur plus comme un vrai partenaire bien-être et santé des salariés, et en fait c'est les entreprises qui gagneront, c'est parce qu'elles se différencient. Il y aura de la différenciation, elles créeront des nouvelles choses. Et nous, c'est ça qu'on a fait comme investissement ces 2 dernières années, c'est se positionner comme quelque chose qui est plus qu'une assurance, en fait.
Vous entendez les annonces de la REF, c'est normal, on est ensemble, là en direct, hein, à l'hippodrome de Longchamp, ensemble à l'université d'été du MEDEF, on y est toute la journée à BFM Business. On entend qu'il faut évidemment attirer des talents, Caroline Semain, mais il faut aussi avoir des entrepreneurs qui ont envie de prendre des risques, de poursuivre dans cette voie. J'ai appris en préparant l'interview, une ETI sur 2 va chercher son chef d'entreprise dans les prochaines années, c'est énorme. Est-ce que pour vous c'est tout tracé, c'est clair, vous reprendrez l'entreprise après votre père, c'est évident?
Alors, en effet, c'est une ETI sur 2, soit 3000 ETI, ce qui représente quand même 25% de l'emploi, 30% de l'investissement, 35% de l'export. Et ETI La Relève, c'est une initiative portée par KPMG à laquelle je participe avec d'autres dirigeants d'ETI. Oui, en effet, pour moi, c'est clair, je me suis lancée dans l'aventure, je travaille au quotidien avec mon père pour développer la boîte, et c'est un super beau challenge, je m'éclate au quotidien.
Est-ce que la réglementation, elle est adaptée à cette période de renouvellement des dirigeants des ETI? Est-ce que la loi Dutreil qu'on connaît bien, est-ce que ça suffit, ou est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait améliorer? Peut-être qu'on va vous poser la question, Axel Robaudière.
Oui, effectivement. Alors, le pacte Dutreil qui existe depuis 2002 est effectivement un formidable outil pour la transmission des entreprises au sein de la famille et de la nouvelle génération qui va prendre la relève.
Donc tout va bien,
Alors il a été amélioré, il est amélioré chaque année, donc il va continuer et on a un certain nombre de propositions qu'on pourra formuler pour encore améliorer ce dispositif, mais c'est un bon dispositif et je crois que Caroline, vous en avez profité, en tout cas bénéficié avec votre père et votre sœur également pour transmettre l'entreprise. Mais le plus important, ce dont on s'est aperçu en faisant cette étude sur la transmission des entreprises, c'est le niveau de préparation. C'est qu'une entreprise, une transmission réussie, c'est 5 à 10 ans. Et c'est des aspects bien sûr patrimoniaux, fiscaux, mais c'est aussi des aspects stratégiques. C'est un nouveau plan stratégique. Qu'est-ce que la nouvelle génération a envie d'impulser pour l'entreprise familiale? Et puis c'est aussi tout un écosystème de gouvernance à mettre en place sur laquelle en tant que entreprise de conseil, on a envie de mettre en avant ces futurs dirigeants. Hein, ils ont 40 ans, ils vont reprendre les 3000 entreprises familiales dont on a parlé, et c'est eux qui vont être les acteurs des différentes transitions dont on parle, la transition numérique, la transition écologique. Donc c'est cette nouvelle génération de dirigeants qu'on avait envie de mettre en évidence avec notamment Caroline.
Dont Jean-Charles Samelian en fait partie, vous faites partie de la nouvelle génération de dirigeants. Peut-être quand vous aurez fini avec Alan, vous pourrez peut-être reprendre une autre entreprise.
J'espère,
vous aurez fini, bien sûr.
J'aurais jamais fini. On essaie de faire une génération.
Un mot de l'assurance chômage. On parlait de guerre des talents. Ici, au MEDEF, on porte très fort l'idée qu'il faut absolument être très rapide sur cette réforme, quitte à ne pas discuter avec les partenaires sociaux. Pour vous, dans les tensions de recrutement, alors vous êtes plutôt sur le marché des cadres et des talents high-tech, mais est-ce que c'est important aujourd'hui de faire cette réforme?
Honnêtement, j'ai pas trop d'avis. Je pense que vous aurez peut-être des réponses meilleures que moi, mais nous, c'est pas une problématique dont on discute.
J'ai posé une question très concrète. On est dans la guerre des talents. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les talents que vous recherchez parfois préfèrent être dans des périodes d'activité, préfèrent être rémunérés parce qu'ils sont cadres et que le niveau de rémunération de l'assurance chômage est assez élevé et qu'on peut faire un break de 6 mois, 8 mois, 10 mois payé par finalement la collectivité et qu'on sait que de toute façon on retrouvera un job chez Alan dans 10 mois?
Je pense que ça c'est plus probable. On a vu une vague et pas mal chez nos clients aussi de la grande démission.
C'est ça.
Et ça, c'est difficile de voir quelles sont les causes et quelles sont les corrélations.
Mais on a tous autour dans notre entourage des gens qui
ont pris le temps.
Ouais. Qui ont pris le temps.
Exactement. Voilà. Après, nous, ce dont on s'aperçoit, c'est on peut améliorer ça, il y a sûrement des réformes qu'on peut faire. Il faut aussi rendre les boîtes plus attractives, et ça, c'est aussi un sens de mission, de culture d'entreprise, de partage de la valeur avec les salariés. Et si on ne fait pas ça, si on n'équilibre pas ce modèle, si on n'est pas très clair sur qu'est-ce que c'est la boîte, qu'est-ce qu'elle apporte aux salariés, et qu'est-ce qu'eux nous apportent, et quelle est la mission qu'on construit ensemble, c'est sûr que ce sera dur d'être attractif. Après, si on crée des incentives qui sont trop forts à ne pas travailler, c'est sûr qu'on va avoir un problème. Ce qu'on voit aux États-Unis juste, c'est que c'est en train de s'inverser quand même. Alors les États-Unis, les chocs sont souvent plus importants, donc la grande démission était plus importante. Maintenant, avec l'inflation qui augmente, les gens commencent à poser la question de quand est-ce que je reviens au travail.
Caroline, chez vous avez aussi des difficultés de recrutement dans vos secteurs?
Oui, et pour le coup, dans la transmission justement et la reprise de l'entreprise, BPI nous a aussi accompagnés sur deux gros projets. Un projet de construction d'un projet d'entreprise avec l'équipe de direction, un travail collaboratif pour se dire bon, où on est aujourd'hui, où on va être à 5 ans et surtout comment on va y arriver. Et derrière, un travail davantage sur l'organisation et la gouvernance du groupe qu'on a entièrement revu. Et c'est passé par des recrutements assez structurants, clés pour un apport de compétences extérieures et de manière à accélérer le développement du groupe.
Axel Rémaudière, vous aurez le mot de la fin.
Oui, alors on parle de grande démission. Moi, je dirais plutôt, et c'était une étude de la DARES, la grande migration, c'est-à-dire qu'il y a plutôt des phénomènes de
on a appelé ça la petite démission ici, nous.
Voilà.
Petite.
Mais je dirais, moi, je reste quand même optimiste dans cette période, malgré tous les chocs que l'on vit. C'est que c'est dans cette période-là qu'on réinvente de nouveaux modèles. Donc, Alan en est l'exemple. Mais Caroline, avec la reprise de l'entreprise demain, je pense que ça va être aussi l'occasion de donner une nouvelle impulsion à l'entreprise. Donc moi je reste profondément optimiste sur les entreprises et la capacité des dirigeants à se réinventer.
Merci à tous les trois. Vous restez